Parfait. On est rendu à la chronique NFL avec Stéphane Collerette du Journal de Québec. Salut Stéphane.
Salut Dan.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, toi?
Oui, ça va bien. Stéphane, c'était mardi de mémoire la date limite pour effectuer une transaction dans la NFL. Est-ce que c'est final comme au hockey de la Ligue nationale ou, à l'instar du baseball, il peut y avoir encore une autre date où là, il y a des technicalités que je connais pas. Là. Mais tu sais, au baseball, il y a 31 juillet puis 31 août. Il faut que le gars, je pense, à la deuxième date, passe par le balotage. Est-ce qu'au football de la NFL, c'est final maintenant? Les équipes qu'on voit maintenant, c'est celles qui vont participer aux séries. On ne sait pas encore, mais ça va être les mêmes joueurs en série. C'est ça que je voulais dire.
C'est fini, final, bâton,
okay,
pour répondre
parfait.
À ta question. Okay. Donc, c'est pour ça là, qu'il y a eu quelques moves cette semaine. Puis c'est une date limite des transactions, je te dirais, qui est un peu plus active depuis 2 ou 3 ans.
Ah,
avant
oui?
ça, la date limite, tu n'en entendais pas parler avant parce qu'il n'y en avait pas d'échange dans la saison. C'était une anomalie. Tu en avais un de temps en temps. Dans les dernières années, les équipes ont plus de manœuvres sous le cap salarial. Puis on voit de plus en plus aussi de jeunes DG, de jeunes entraîneurs-chefs très agressifs qui cherchent par tous les moyens à s'améliorer. Tu sais, tu le vois, l'exemple le plus probant, moi je trouve que c'est les Rams de Los Angeles,
ouais.
avec le jeune Sean McVay à la barre. C'est des équipes là, qui n'hésitent plus à appuyer sur la gâchette pour faire n'importe quoi pour s'améliorer, alors qu'avant, la NFL, c'était un milieu beaucoup plus conservateur où tu sais, t'avais des gens qui étaient là en poste depuis des années puis qui disaient c'est pas comme ça qu'on monte une équipe, ça se monte à long terme et tout, mais je pense que maintenant certains entraîneurs ont vu les bienfaits d'ajouter des joueurs en cours de route. C'est plus dur pour ce qui est d'un corps arrière, mais pour les autres positions, généralement, tu sais, t'as moyen d'apprendre un système de jeu plutôt rapidement, donc les équipes hésitent de moins en moins.
Penses-tu que le DG des Packers a consulté Aaron Rodgers pour échanger M. Montgomery?
C'est une excellente question, mais je pense que la décision n'a pas été difficile compte tenu de ce qui est arrivé la semaine passée pour le bénéfice des gens qui n'ont pas vu le match. Les Packers avaient une grosse chance d'aller battre les Rams, c'est-à-dire qu'Aaron Rodgers allait reprendre le ballon à la toute fin du match avec un peu moins de 2 minutes à jouer. Puis Dan, on connaît les genres de miracles qu'il est capable de faire dans ces situations-là.
Ouais.
Mais le malheur, c'est qu'il n'a jamais touché au ballon parce que Ty Montgomery a décidé, lui qui sortait, le retour de botté d'envoi de la zone début, il a échappé le ballon et ça a été la fin des émissions pour les Packers. Puis, ce qu'on raconte, c'est qu'il y avait déjà un gros terrain de mésentente entre Montgomery et les Packers sur l'utilisation qu'on faisait de lui à l'attaque. Il n'était pas satisfait de son rôle. Donc, ce qu'on lui a dit avant le botté d'envoi, c'est le rappel habituel. Les coachs le font même pas 100% du temps parce que c'est d'un commun accord avec les joueurs, tu sais, c'est devenu la norme. C'est quand le ballon arrive dans la zone début, dans cette situation-là, ne retourne pas le botté. Montgomery a décidé d'y aller quand même, donc ça a coûté le match aux Packers. Je pense que le divorce devenait inévitable. Puis tu vois, écoute, ils ont demandé un 7e choix, pas pour le prochain repêchage, mais le suivant, donc en 2020. Ça montre à quel point il n'y avait plus beaucoup de valeur aux yeux de l'organisation.
OK. Est-ce que si j'ai bien vu, je me souviens pas quelle équipe est allée chercher. Monsieur Tate, c'est un receveur de passe, lui?
Oui. Golden Tate des Lions qui passe aux Eagles de Philadelphie.
Il me semble qu'il n'est pas si mal, lui. Quand j'ai vu ça passer cette semaine, je me suis dit, ah, me semble, moi aussi, j'aurais pris une chance avec lui.
Ben écoute, les Eagles donnent un 3e choix. L'attaque des Eagles n'est pas aussi productive, disons-le comme ça, que l'an passé. Ça demeure une bonne équipe qui a de bonnes chances de faire les séries. Eux autres se sont dit, pour un 3e choix, on ajoute un joueur qui, Golden Tate, sa spécialité, c'est les verges après réception. C'est le meneur dans la NFL depuis 2 ans pour les verges après réception. Donc, capable de transformer un petit jeu en gros jeu. Les Eagles ont beaucoup besoin de ça cette année.
Okay.
Je pense, moi, que ça va être une bonne addition pour l'attaque. Là, on revient au point de tantôt. Est-ce qu'il va être capable d'apprendre le système de jeu facilement? Parce que du côté de Philadelphie, c'est plutôt complexe. S'il est capable de s'adapter, de s'acclimater très rapidement, les Eagles vont être vraiment gagnants sur cet échange-là. Écoute, ils ont donné un choix de 3e ronde. C'est pas de la petite monnaie, mais quand même, je pense que quand tu vas te chercher un receveur de cette qualité-là, ça devient un excellent joueur de location parce qu'il faut le dire, Tate est à sa dernière année de contrat. Donc, ça devient presque assurément un joueur de location.
Stéphane, quand je regarde l'horaire des matchs en fin de semaine, puis je me rends compte qu'à 16h25, les Rams affrontent les Saints à la Nouvelle-Orléans, puis qu'à 20h30, c'est Packers-Pats à Foxborough. Je me dis que le risque devient de plus en plus élevé pour augmenter le nombre de divorces en Amérique du Nord.
C'est possible. Écoute, moi, je conseillerais aux gens que si vous avez promis à madame ou à monsieur d'aller racler les feuilles, ça serait à 13h, l'idéal. je suggère jamais de manquer de match, mais honnêtement, celui de 16h25 entre les Saints et les Rams, ça va être du bonbon. Les Rams, c'est vraiment intéressant ces temps-ci parce qu'ils rentrent dans une partie extrêmement compliquée de leur calendrier. Tu vois, ils ont eu les Packers d'impact la semaine passée. Là, il y a les Saints. Ensuite, il y a les Seahawks qui sont une équipe supérieure à ce qu'on pensait. Et puis, il va y avoir les Chiefs la semaine d'après. Donc, c'est beau, là, la fiche de 8-0. Mais si les Rams se sortent de là avec une fiche de 10-1 ou 11-0, on va vraiment se dire qui peut battre cette équipe-là. Ils vont avoir pogné la crème de la crème. Puis je pense qu'en fin de semaine, ça va probablement être leur test le plus difficile parce que ils vont pogner plus tard les Chiefs, mais ça va être à Mexico, donc en terrain neutre. Ils ont eu les Packers la semaine passée à la maison. Là, ils s'en vont affronter les Saints chez eux à la Nouvelle-Orléans. C'est un stade où c'est très difficile de gagner. Les Saints ont gagné 10 de leurs 11 derniers matchs là-bas. Puis dans ces 10 victoires-là, ils ont marqué une moyenne d'au-dessus de 32 points. Donc, tu vas voir un clash offensif. Je pense que ça va être très intéressant. Puis, c'est deux défensives aussi qui sont sous-estimées à mon égard parce que les attaques font tellement de points. Ils ont tellement de joueurs vedettes d'un côté comme de l'autre qu'on parle peu de ces défensives-là. Mais c'est deux défensives de très, très bonne qualité.
Tu sais, on arrive à des dimanches soirs, des fois, où on se dit, ouais, Colin, Sunday night, je ne sais pas si c'est le meilleur match-up qu'on a. Ou peut-être des jeudis soirs, des fois, on a peut-être dit ça un peu récemment, comme hier, San Francisco qui a battu Oakland 34-3. On a l'impression que c'est un match qu'on aurait pu présenter un dimanche. Mais dimanche soir, les Packers et Aaron Rodgers contre Tom Brady et les Pats, dans le froid à Foxborough. Peu importe, on est installé où en Amérique du Nord, c'est certain qu'on va regarder ça.
Bien, je te dirais que si jamais, mettons que vous décidez de ne pas le regarder, à part s'ils se rencontrent au Super Bowl, c'est la dernière fois qu'on va les voir un contre l'autre.
Oui.
Parce que les technicalités du calendrier dans la NFL font en sorte que les équipes de la conférence américaine affrontent celles de la conférence nationale une fois aux 4 ans. Donc, dans 4 ans, ça nous met à 45 ans pour Tom Brady. Écoute, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais je crois plus ou moins. Moi, je le sais qu'il l'a déjà dit souvent qu'il allait jouer jusqu'à 45 ans, mais c'est une chose de le dire, c'est une autre chose de le faire. Ça pourrait fort probablement être le dernier match entre les deux carrières. Puis là, je le sais, il y en a qui vont dire c'est pas un contre l'autre, ils ne sont pas ensemble en même temps sur le terrain. Je sais tout ça, mais c'est quand même captivant, je pense, pour les téléspectateurs de savoir que deux des meilleurs corps arrière de leur génération s'affrontent comme ça. Puis écoute, la dernière fois, ça avait été un classique en 2014. Les Packers avaient eu dessus un match formidable d'Aaron Rodgers. Puis la fois d'avant, 2010, Aaron Rodgers avait manqué le match à cause d'une commotion cérébrale. Donc, ces deux-là se sont affrontés seulement une fois dans leur carrière. C'est quand même triste quand on pense à ça. Donc, ça va être du bonbon dimanche soir.
Nonobstant le début de saison des Rams puis la performance de Pat Mahomes chez les Chiefs, est-ce que tu dirais que les deux meilleurs joueurs de la NFL vont s'affronter à Foxborough dimanche soir?
Écoute, je suis obligé de te dire que dans les meilleurs joueurs de la NFL, il faut absolument considérer Todd Gurley, le porteur de ballon des Rams.
Okay.
Pour te donner une idée à quel point il y a une saison phénoménale, il y a 15 touchés au moment où on se parle. Et puis, le record de la NFL, c'est 31 touchés. C'est LaDainian Tomlinson qui l'avait enregistré le record en 2006. Donc, il s'approche dangereusement. Là. T'sais, écoute, il reste une moitié de saison, il peut se blesser, il peut arriver un paquet de facteurs. Mais au rythme où il produit actuellement, il s'attaque dangereusement à un record qu'on pensait inatteignable parce que les porteurs de ballon, ça a été un peu une arrière-pensée dans les dernières années. Ça te démontre à quel point Gurley est en contrôle, à quel point il joue bien. Puis je pense qu'il faut le considérer dans cette discussion-là. Mais évidemment que Brady et Rodgers...
Non, c'est plus vendeur, hein?
C'est la crème au poste de carrière. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus.
C'est plus vendeur que le porteur de ballon pour vendre un match aussi. Un gros merci, Stéphane.
Ça fait plaisir. Salut, Dan.
Bon week-end. Stéphane Gadorette, l'expert NFL pour le Journal de Québec, à qui on parle chaque semaine dans l'avant-match.